Bonjour à tous. J'arrive un peu dans vos histoires de famille, hein. Je découvre un petit peu à bout de votre programme de journée, tout ça. Je découvre plusieurs visages connus. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Merci pour l'invitation, pour la confiance. Je suis Nicolas Broglie, je suis marié à Anne. Nous avons 3 enfants dont nous sommes fiers. Je suis venu avec Clémence, notre fille aînée. De temps en temps, quand je bouge dans les églises, c'est souvent un petit peu le tandem, c'est souvent nous deux. T'as remarqué ? Bon, ces 6 dernières années, je vais commencer avec ça avant qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu. Ces 6 dernières années étaient pour moi l'occasion de voir ma vie complètement changer. Comme j'ai dit quelquefois, quand je regarde en arrière, seul Jésus et ma femme sont restés. Toutes les autres choses de ma vie sont parties, ça veut dire la santé, une partie de la santé, les façons de faire, les responsabilités, la réputation, le boulot, la sécurité financière. Tout s'est cassé la figure. Il est resté Jésus et il est resté ma femme. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal de choses qui ont changé chez moi. Je fais plusieurs choses différemment. J'ai traversé une crise majeure d'église. Vous savez, peut-être ce genre de conflit de vision, conflit de personnalité, ce genre de choses dont on est très fort pour dans nos églises. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a quelques compétences assez puissantes pour ce genre de crise-là. J'ai traversé ça. Alors, bien sûr, mais j'avais des responsabilités aussi là-dedans. Je me suis repenti. J'ai essayé de corriger ce que j'ai pu. Mais voilà, ça n'a rien changé au tourbillon qui a passé sur ma vie et j'ai été laminé. Et depuis, j'essaye de me relever. Mais beaucoup de choses ont changé. Je suis retourné à mon premier métier, enseignant primaire. J'ai gardé quelques responsabilités. Avec quelques drôles de chrétiens, on vit notre foi d'une manière un peu alternative. On expérimente une nouvelle forme d'église. Le centre, le cœur, Jésus est resté. Et puis tout le décorum évangélique, passablement de choses, ne sont plus comme ce que j'avais connu jusque-là. Donc voilà un petit peu certains détails de ma vie. En août dernier, j'ai terminé un court mandat, un petit pourcentage à l'église missionnaire du village ici, parce que peut-être les gens qui me connaissent bien, vous savez que j'ai à cœur que les chrétiens bossent ensemble. Donc j'ai servi avec eux comme pasteur jeunesse pour une année, et puis j'ai quitté ma responsabilité parce que plusieurs éléments ont fait que le deal de départ ne pouvait plus se poursuivre. Enfin voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà, j'ai été avec les jeunes là-bas pour une année. J'ai terminé ça en août. Du coup, ma prédication a aussi un peu changé. Du coup, je suis peut-être un peu plus stressé qu'avant de venir devant des parterre de chrétiens, comme ici. J'aime toujours autant le faire, mais je pense que je viens un petit peu différemment. Je crois que le Seigneur a déposé quelque chose sur mon cœur qui nous concerne, et puis j'espère qu'il va... Enfin, j'ai pas de doute qu'il va faire que ça puisse croître et encourager plusieurs d'entre nous. J'aimerais revenir sur des fondamentaux de la vie chrétienne évangélique, mais quelque chose que j'ai depuis longtemps plus entendu prêcher à droite et à gauche. Et vous avez le titre qui est arrivé là, Jésus-Christ va revenir. Et c'est un des éléments que j'aimerais voir avec vous ce matin. Sur fond de guerre en Ukraine, de réchauffement climatique, de hausse des prix de votre huile de chauffage, pareil dans les supermarchés, pareil pour les assurances maladie qui vont nous arriver pour l'année prochaine, pareil pour l'électricité, enfin vous voyez de quoi je veux parler, on est dans le même monde, mais j'aimerais redire quelques certitudes qui viennent du fond de mon cœur, mais avant d'être dans mon cœur, elles étaient dans la parole de Dieu. Et j'aimerais voir ça avec vous. Et mon premier point s'appelle, et je crois que si je presse là, je dois presser longtemps. Ah, voilà. Merci. Ça va tout seul. Les certitudes forment notre foi. Ce sera mon premier point. Et j'aimerais voir de quelle manière nous pouvons tirer des certitudes de la parole de Dieu. Et j'aimerais commencer par rappeler certaines choses, notamment, ma foi, là, ça va arriver tout en vrac. Donc, je vous prie de lire seulement la première ligne, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Jésus revient pour apporter le salut complet et définitif. Et vous savez, quand je lis la Bible de droite à gauche, de gauche à droite, un peu dans tous les sens, je redécouvre que c'était valable. Un jour, une fois, une œuvre de puissance s'est faite dans notre vie. Un jour, une fois, une main s'est levée, des larmes ont coulé, une prière de repentance a jailli. Et ce jour-là, notre destinée a été scellée. Ce jour-là, nous avons été assis à la droite céleste. Ça veut dire, ce jour-là, nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est, j'allais dire, irrévocable. Ça veut dire, une fois, ton choix a été entendu de la part du Père. Tu as saisi l'espérance de Jésus. Et donc, c'était valable. Mais bon, pour tous ceux qui continuent à vivre après cette scène glorieuse-là, vous avez vu qu'on était sauvés en espérance. Ça veut dire que les alentours de notre vie restent un petit peu pareils. Ça veut dire qu'on est libérés de l'obligation de pécher. C'est ça qu'on appelle la libération de l'esclavage. Ça veut dire que tu n'es plus obligé de vivre pas comme Jésus. Tu n'es plus obligé. C'est possible de vivre comme Jésus. Et ça, c'est... Mais les tentations ne disparaissent pas et les rechutes ne disparaissent pas. Ça veut dire on est encore un peu dans un salut déjà, mais pas encore. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de plus grand, de plus parfait, de plus glorieux plus tard. Pour le moment, c'est très valable, mais quand même, quelquefois, c'est encore un peu compliqué. C'est chez vous comme ça aussi ? Bougez votre main. Ah, chez trois personnes, non, un peu plus. Chez quelques-uns, c'est pareil que chez moi. Ça me rassure. C'est ça qu'on appelle notamment le combat de la foi. C'est déjà, mais pas encore. On est déjà consolé par le Saint-Esprit, mais pas encore sorti de notre monde d'horreur où il y a de la justice, où la maladie nous touche encore. Mais n'empêche que nous ne sommes pas seuls. Mais cette libération complète aura lieu le jour où Jésus va revenir. Et là, c'était assez beau de vous entendre prier. Moi, j'aime arriver dans les églises où les gens prient. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup... On priait, même certains chants étaient dans le sens « Merci Seigneur que tu fasses la vie avec nous. Merci que tu es avec nous ici en bas. » Et c'est vrai, et c'est juste, alléluia, merci Seigneur. Mais viendra un jour où l'habitation sera suprême ou meilleure encore. C'est-à-dire que lui va dire « Maintenant, viens chez moi. » Et là, ça sera encore un peu un autre niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va être bien. Bon, deuxième élément sur lequel j'aimerais revenir, vous le voyez là à l'écran, Jésus revient pour révéler sa véritable nature. Alors ça, bon, c'est peut-être un de mes petits dadas. Vous savez, j'aime, non, vous savez pas, mais je vous le dis, j'aime la fin de l'année, le moment où les jours se raccourcissent un petit peu, il fait froid, on prend une couverture, on met des bougies dans la maison, l'ambiance de Noël. Oh, moi, j'aime bien, mais ça, vous le dites à personne, hein, parce que je suis le seul dans ma famille. Moi, je mets Elvis, chante Noël chez moi pour avoir ces vieux tubes. Ben, voilà, moi, j'aime un peu le rock'n'roll. Bon, bref, j'aime tout ça et c'est certainement, j'ai découvert le moment de l'année où on parle le plus de Jésus, un peu dans les cercles où d'habitude on ne parle pas de Jésus. Mais là, fin de l'année, voilà, on sort un petit mot de Jésus dans les journaux et tout ça. Mon problème avec ça, c'est que Jésus apparaît en l'ange. Jésus apparaît avec les joues rondes des petits-enfants. C'est en fait le petit-enfant Jésus. Et c'est comme ça qu'on termine l'année au niveau des décorations de magasins, ce qu'on voit dans les différents médias et tout ça. Et pour plusieurs, tant qu'il reste dans la crèche, c'est pas un problème. Et je découvre que, alors qu'Hollywood, Wikipédia et les autres livres d'histoire s'arrêtent à la croix, la parole de Dieu va plus loin. Et quand j'écris que Jésus revient pour révéler sa véritable nature, j'aimerais juste lancer deux, trois petits pics comme ça. J'ai retrouvé plusieurs textes dans la Bible où vous allez voir que Jésus possède toute puissance dans le ciel et sur la terre. Que Jésus est au-dessus de tout et cela pour toujours. Il est le chef suprême de l'Église. J'ai trouvé ce texte qui dit que tout genou va plier devant lui. On est bien loin de la petite statue de Jésus un petit peu bouffi entre trois brins de paille. J'ai redécouvert ces textes où on voit que les anges se prosternent devant lui et que Dieu fait des ennemis de Jésus son escabeau. Tu sais, moi j'en ai un dans ma cuisine. C'est le truc sur lequel je marche tous les jours pour aller encore un petit peu plus haut dans les armoires. Et la parole de Dieu dit que des ennemis de Jésus... Ils vont devenir l'escabeau de Jésus. Le truc sur quoi tu montes dans ta cuisine. C'est pas génial ? C'est permis de lâcher des petits alléluia si jamais. Hein. Bon bref, faites votre foi comme vous l'entendez. Mais quand je lis ça, moi, ça me fait un peu vibrer. Jésus est le Fils de Dieu. L'Apocalypse va dresser un portrait du Christ victorieux. Et là, on est loin alors des décorations de fin d'année. Et dans ce livre de Révélation, Jésus va apparaître comme le souverain universel, celui qui commande à l'histoire et à chaque événement. Ça veut dire c'est lui qui laisse faire certaines choses, c'est lui qui dit stop, c'est lui qui dit vas-y. Il gère tout ça. Jésus est toujours l'agneau de Dieu, mais il se comporte comme un lion. Et ça, c'est différent. T'es allé au cirque ? T'es allé au zoo ? Juste un truc comme ça au hasard que j'ai découvert. Est-ce que vous savez pourquoi, à l'époque où on pouvait encore aller dans les cirques, aujourd'hui c'est un peu différent, est-ce que vous saviez pourquoi l'entracte avait toujours lieu avant le spectacle des fauves ? Quelqu'un a étudié ça ? Vous vous souvenez, vous alliez acheter votre pop-corn, les glaces, pendant ce temps, ils mettaient les grilles, et quand tu retournais dans le chapiteau, tout était prêt, le gars avec son fouet viril là, son petit maillot en tigre. Pourquoi ça se passait ? Pourquoi ils font ça pendant la pause, l'installation ? C'est pas que à cause du timing, hein ? Alors, je vais vous dire le secret de dresseur de fauves. C'est qu'en fait, il faut préparer pas seulement la cage, mais il faut préparer le sol. Parce que si vous vous souvenez avoir assisté à ces spectacles, vous allez voir que le dresseur, avec son fouet, fait toujours face au fauve. Et donc, pendant le spectacle, vous avez peut-être vu le dresseur reculer gentiment, sans quitter les fauves des yeux, avec le fouet dans la main, et le sol, et c'est ça qui prend du temps pendant la pause, le sol doit être parfait. Parce que si le dresseur s'encouble ou perd l'équilibre dans un trou de sable, à ce moment-là, le fauve va sauter. Parce que les fauves sont ainsi faits qu'ils attaquent quand il y a une faiblesse. Et donc, quand le dresseur pourrait montrer une faiblesse, le fauve, bam, va lui mettre une de ses grosses pattes pleines de griffes dans la figure. Et c'est pour ça que tu pars en pause acheter ton pop-corn à ce moment-là. C'est pour que les spécialistes du sol fassent un sol top nickel, pour qu'il n'y ait pas un carnage durant ce spectacle. Donc maintenant, je vais redire ce que j'ai lu avant, c'est que Jésus est bel et bien, et toujours, et sera toujours pour nous l'agneau de Dieu. Mais il se comporte comme un lion. Et ça, ça change radicalement l'image qu'on se fait du petit Jésus qui ne nous pose pas de problème tant qu'on le laisse dans la crèche en fin d'année. Amen. Je passe rapidement là-dessus, mais il y a encore ces textes qui parlent que Jésus va diriger les nations avec un sceptre de fer. Jésus, c'est pareil quand même. Regardez cette dernière partie. Jésus va revenir pour établir son règne. Et ça, je devais le préciser juste avant d'avoir un petit peu essayé de redorer l'image de ce grand et puissant Jésus. Il y a une autre raison du retour prochain de Jésus, c'est qu'il va rétablir ou établir un règne qui a été inconnu et jamais vu jusqu'ici. Et si on se rappelle, on revient au tout début de l'histoire de l'humanité, en Éden, Adam et Ève ont affirmé à un moment donné leur volonté d'indépendance. Ils voulaient être comme Dieu et c'était au moment d'enfreindre l'unique commandement de Dieu. Et donc Dieu, dès lors, a respecté leur décision de liberté. Il les a laissés choisir, mais depuis, aucun système du gouvernement n'a été capable d'apporter un bonheur équitable à l'homme. Pourtant, il y a eu des essais, mais personne n'a réussi. La débâcle des gouvernements corrompus, les extrêmes injustices des régimes totalitaires, l'insécurité des minorités, bon nombre d'inégalités sont les conséquences du pouvoir donné à l'homme. Quand l'homme gère les hommes, voilà ce que ça donne. Et Jésus-Christ va revenir pour établir son règne. Et quand il va prendre le gouvernement du monde en main, il va apporter la démonstration du plan que Dieu avait depuis tout temps dans son esprit. Les prophètes ont peint un portrait de cette période du règne de Jésus. Et je crois que nous aurions tort de prendre ça seulement au sens figuré. Peut-être le savez-vous, dans la pensée juive, le Messie ne peut pas être un Messie s'il ne vient pas exercer un règne terrestre. Autrement dit, les Juifs attendent un vrai Messie qui vient, un vrai roi. Et nous, les chrétiens, quelquefois, nous avons raté ça. On a un petit peu passé par là-dessus. On voulait juste être dans la gloire tout de suite avec notre Jésus. Mais n'oublions pas et relisez ces textes prophétiques. Vous allez voir que Jésus va en effet exercer une justice. Il aura cette, comme on le lisait avant l'histoire du sceptre de fer, il va y avoir un vrai règne de Jésus sur la terre. J'en suis convaincu et beaucoup de textes vont dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, on revient dans cette pensée juive. Nous croyons que Jésus est le Messie et donc nous allons le voir ajouter son règne, ajouter au règne spirituel un règne terrestre. C'est pour ça que je vous ai écrit Jésus revient pour établir son règne. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose et c'est aussi pour ça qu'il doit revenir, c'est pour montrer que ce que son peuple attendait, ce qui est dans notre cœur depuis un moment, ce qu'on attend, ça va véritablement se passer, il va véritablement venir et gérer la terre comme personne n'a jamais réussi à la gérer jusqu'ici. Et il va le faire pour achever l'œuvre initiée à la création. Pour être encore plus précis et comprendre les prophéties, on pourrait aussi parler du renouvellement de la création. Et je crois que Jésus doit revenir et va revenir pour recréer la terre. D'ailleurs en piteux état. Alors voilà, quand on regarde, quand on lit les journaux et tout ça, je me dis, mais la politique internationale est souvent embourbée dans des travers moraux graves. Elle s'enlise dans des mensonges, des jeux de pouvoir, de l'incompétence quelquefois, et s'ajoute à tous ces troubles une situation climatique des plus préoccupantes. On peut d'ailleurs véritablement se demander combien de temps encore la Terre va absorber nos excès, faisant un constat d'échec. À l'échelle mondiale, ce que l'homme a entrepris n'a jamais produit la justice, l'équité, la vie, la paix, la prospérité durable. On n'a pas réussi à le faire. Et Jésus va revenir. et les certitudes abordées là, dans les dernières minutes, ont formé ma foi. Elles soutiennent notre espérance de son retour. Il va revenir. Mais ça ne suffit pas, les certitudes. J'aimerais voir que, quand on lit la parole de Dieu, il y a d'autres choses. Et ça va arriver maintenant. Ça sera mon deuxième point. J'aimerais voir qu'il est question aussi de signes. Et ces signes-là, si les certitudes ont formé notre foi, les signes vont confirmer notre foi. Et il y a de fameux épisodes, j'aimerais m'arrêter sur un ce matin. Jésus va revenir. À un moment donné, les disciples lui ont demandé quand les événements de la fin du monde allaient se dérouler. Et Jésus n'a pas répondu. Il ne pouvait pas répondre au quand. Par contre, il a répondu à l'autre partie de leur question. Quand ils ont dit quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. Et sur la question de ces signes-là, Jésus a répondu. Et j'aimerais en voir quelques-uns avec vous. Et j'aimerais vous encourager à être attentif aux 7 signes que Jésus nous a donnés. Mais non seulement soyons attentifs à ces signes-là, mais aussi aux mots doux que Jésus a ajoutés au moment où il répondait à ses disciples. Il a dit d'ailleurs, vous trouvez ça dans Matthieu 24, on ne va pas tout lire maintenant, il est question de faux Christ et de faux prophètes. Il a dit attention, ça va arriver, il va y avoir des faux Christ, il va y avoir des faux prophètes, et Jésus a ajouté les mots doux suivants. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que ça va arriver, ces bons parleurs, ces gens puissants, en parole et en acte, vont arriver. Peut-être quelques-uns d'entre vous se sont quelquefois laissés prendre par ce genre de gens, d'enjeux mauvais, méchants, ça laboure nos vies. Jésus a dit, oui, ça va arriver. Ayez les yeux ouverts, quoi. Il a dit d'autres choses, il a dit des guerres et des menaces de guerre. Et là, ce qu'on pensait ne plus arriver est arrivé depuis quelques mois. Alors qu'on pensait avoir tiré les leçons de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est de nouveau secouée depuis que M. Poutine s'est comporté comme il se comporte en Ukraine. Et donc depuis, nous voyons arriver à nos frontières, dans nos villages, des gens qui ont fui le conflit en Ukraine. Et pour nos démocraties tranquilles d'Europe, c'est un véritable choc. Et là, Jésus a dit, quand il a parlé des conflits, il a dit, prenez garde, ne vous troublez pas. Autrement dit, ça va arriver, mais t'es pas tout seul. Ne vous troublez pas, soyez pas confus. Ensuite, Jésus a parlé des famines, Jésus a parlé des épidémies, Jésus a parlé des tremblements de terre. Alors là, j'aimerais juste vous montrer quelque chose. J'espère que c'est assez grand, j'espère que vous arrivez à lire. En 2021, ce sont 828 millions de personnes qui souffraient de la faim à travers le monde. Le rapport de 2022 va plus loin et estime que 670 millions de personnes seront encore confrontées à la faim en 2030. Lisez maintenant, pratiquement aucun progrès depuis 2015, date à laquelle l'objectif de la faim zéro a été fixé. C'est-à-dire au niveau de la faim dans le monde, on en est là aujourd'hui. Ça a progressé que pouic. Il va y avoir encore pour les années qui viennent des gens qui meurent juste parce que quand ils tournent, bon déjà il n'y a pas de robinet, mais quand ils tournent il n'y a rien qui vient. Et puis il n'y a rien à manger. Nous on est là avec nos soucis, excusez-moi, j'espère choquer personne, nos soucis bourgeois d'Européens. Mais quand tu te lèves le matin, ton unique but, c'est qu'est-ce qui va arriver dans mon assiette ce soir? Je te promets que ce n'est pas comme ici. Et quand Jésus dit, mais il va y avoir des famines, c'est un des signes. Et là, je vois, les années passent, et il y en a de plus en plus, ou en tout cas, encore pas moins. Là, je me dis, mais attends, peut-être que ce qu'a dit Jésus, c'est juste visible à nos yeux, on oublie juste quelquefois de porter le regard, de faire du tourisme là-bas, ou d'aller un petit peu grailler sur Internet. Je continue. Les épidémies. Bon, c'est un peu petit, excusez-moi. Alors si vous regardez, la troisième colonne, on a les années. Alors ça commence en gros en 2010, ça va jusqu'à aujourd'hui. 2010, vous regardez Haïti, bon c'est loin, bon c'est pas nos affaires. Le choléra, on connaît plus ça. 10 000 victimes. Les chiffres à gauche sont les morts en fait. C'est pas les gens un peu malades sur un lit, c'est vraiment les morts qui ont été censés. Après tu peux te dire, oh, il n'y en a pas tant que ça et tout ça. Mais j'aimerais que tu regardes un petit peu vers le milieu Ebola. Ebola, ils s'en sortent pas, hein. Regarde, chaque 2-3 ans, ça revient, des fois dans un autre pays. Ebola, c'est la catastrophe. Regarde la troisième ligne, 11 000 morts en Afrique de l'Ouest de Ebola, mais tu regardes deux lignes en dessous, tu as de nouveau Ebola. Donc, même encore en dessous. même encore en 2018. Et puis volontairement, je me suis arrêté au coronavirus, hein, parce que ça nous touche, puis du coup, ça bouleverse nos vies. Alors oui. Je ne sais pas si c'est juste, mais j'ai lu le nombre de millions de morts au niveau mondial du Covid. Tiens, ouais. Aujourd'hui, quand on lit les paroles de Jésus, on dit épidémie, on dit « Ah, ça résonne un peu autrement, hein ?» En tout cas, chez moi, peut-être pas chez vous. Et je ne sais plus si je vous l'ai mis. Ah non, je ne vous ai pas mis par rapport au tremblement de terre. Mais c'est assez intéressant. Hein. Vous avez un petit peu étudié la fracturation hydraulique ? Vous avez vu comment ils enfoncent les tubes pour chercher le gaz de schiste et tout ça ? C'est intéressant, hein, parce qu'on constate quand même que là où on le fait, les tremblements de terre augmentent. Ça veut dire que tu ne touches pas à la terre un peu comme tu veux. Donc quand Jésus dit « mais ça va arriver » et « ça va arriver », tu regardes aujourd'hui, la terre a tremblé depuis toujours, mais là elle a tendance à plus trembler, ben forcément parce qu'on la malmène un petit peu, notre bonne vieille terre. On est pile dans les mots de Jésus quand on surfe un petit peu sur Internet, quand on lit certains médias. Et là, j'ajoute les mots de Jésus qui va dire dans Matthieu 24, « Il faut que ces choses arrivent. Écoutez ensuite, tout cela sera le commencement des douleurs. » Ah ouais, maintenant il faut qu'on vienne aussi à ce que vous avez prié avant. Hein. Parce que Jésus va aussi dire dans les signes, persécution des croyants. Alors tu regardes ce qui est en rouge et ce qui est en orange. En gros, c'est ce qui est terrible et ce qui est très terrible. C'est l'indice de persécution du CACP, hein, plusieurs connaissent, on prie pour eux. Moi je m'amuse à regarder chaque année la carte se colorie. Hein. C'est pas prêt de s'arrêter. Parce qu'on les aime pas les chrétiens, ils sont bizarres. Puis ils font pas comme il faudrait. Alors si on peut leur compliquer la vie, on le fait. Récemment, et ça se passe chez nous, hein, nous on n'est pas en couleur encore, hein, j'ai discuté avec un collègue qui a assisté à une séance, qui me dit « Écoute, ça m'a un peu fait drôle de sortir de cette séance, parce que dans la séance, il y a quand même quelqu'un qui a dit « Mais bon sang, on a ras-le-bol des chrétiens et de leur morale, on se réjouit qu'on n'en ait plus qui bossent avec nous. » Si, si. Dans les deux derniers mois. Bon, on est dans les paroles de Jésus. Je cite comme ça encore les derniers mots qu'il va dire en disant « Mais ce sont des choses qui vont arriver, persécution des croyants, on y est, apostasie de l'Église. » Alors ça, c'est un mot un petit peu difficile à digérer, mais en gros, c'est quand les gens rejettent leur foi, c'est l'abandon de la foi. Et désolé de le dire, je suis très sérieux avec ça quand je croise des gens, quand je fais mes courses, quand je pense à des personnes, j'étais à leur baptême il y a 10 ans, il y a 20 ans, on a traversé des époques de vie ensemble, et je sais aujourd'hui, parce qu'ils l'ont dit qu'en fait, ce qui brûlait dans leur cœur n'est plus là. Je dis, purée. C'est peut-être ce qui me rend le plus humble quand je vais chez moi, dans la forêt ou chez moi pour prier. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi chez moi c'est resté alors que chez d'autres c'est parti ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je peux avoir la vie de prière, la vie où je sens le Seigneur tout proche que j'ai, alors que d'autres ont choisi et je ne peux plus rien avoir à faire de tout ça ? Et je pleure de ça. C'est terrible. Jésus a dit « ça va arriver, ne vous troublez pas ». Ensuite encore, disparition de toute loi dans le monde. Alors voilà, là on peut juste réfléchir à ce qui était mal vu, voire interdit autrefois. Tu vois aujourd'hui la publicité ou la propagande que les médias en font. Ah ouais, c'est étonnant quand même, une sorte de renversement de certaines choses. Bref, mais ensuite aussi quelque chose de positif, Jésus va annoncer comme signe encore la prédication de l'évangile sur la terre entière. Il va dire, ça sera aussi un des signes de la fin. Et moi j'aime bien me renseigner aujourd'hui de comment travaillent les sociétés missionnaires. Et tu vois comment plusieurs sociétés missionnaires aujourd'hui se sont organisées pour atteindre les peuples non athées. Les gars ont bien bossé, ont tellement bien bossé qu'en effet aujourd'hui l'évangile a atteint des peuplades, des tribus, des coins de pays qui ne connaissaient pas l'évangile avant. J'étais encore hier soir en train de voir une vidéo d'une amie à nous qui a atteint un pays. Tu dis, mais il y a quelques années, on aurait dit non, on va pas là-bas, c'est infaisable, c'est trop dangereux et tout ça. Et là, il y a des choses, l'évangile qui commence à passer. Donc Jésus l'a annoncé comme un signe et aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. Ah, moi, ça m'excite quand je vois tout ça. Les signes confirment notre foi en la parole de Dieu. Et tous ces signes du retour de Jésus se réalisent actuellement. Et non seulement ils se réalisent, mais c'est comme si on constatait une sorte d'accélération de ces choses-là. Parce que de tout temps, les gens ont dit « Ouais, Jésus va revenir de bon vivant. » Et bon, ça fait 2000 ans qu'on attend. Mais on constate aujourd'hui comme une accélération. Et donc, c'est le cri de mon cœur, Jésus va revenir. J'aimerais arriver à mon troisième point avec vous. L'attente parfaite, notre foi. On va voir de quelle manière il se passe quelque chose au moment où on fixe les regards sur le ciel. Les premiers disciples, comme je viens de le dire, attendaient déjà le retour de Jésus. Et bon, ils sont morts, les suivants ont arrivé, ils ont aussi attendu Jésus, ils sont morts. Et puis, il y a plusieurs générations qui ont passé de cette manière-là. Mais je crois qu'effectivement, les hommes et les femmes de Dieu, comme vous, perçoivent la déchéance de notre monde, pleurent dessus, cherchent à se distancer de certaines choses. C'est des sortes de vies prophétiques. Ça veut dire que tu vois des choses qui te mettent mal à l'aise. Tu sens des choses, mais c'est un petit peu imperceptible. Parce que voilà, l'Esprit Saint travaille de cette manière-là en nous. Et nous lisons dans notre actualité des réalisations progressives de ces signes dont nous avons vu tout à l'heure. Et c'est normal. Parce qu'il y a une autre dimension en nous, il y a un autre règne en nous. Donc c'est normal que le Saint-Esprit nous fasse voir les choses là différemment. N'empêche que les années passent et Jésus n'est toujours pas revenu. Ces nombreux textes qu'on a lus, sur lesquels je me suis appuyé pour préparer mes phrases, que ces textes coïncident ou non, c'est pas ça l'essentiel. Et même l'essentiel, c'était jamais de satisfaire notre connaissance. Parce que nous, on a trop besoin de savoir pour être en paix. Nous, si on pouvait savoir, dire « Ah, c'est bon, il me reste 10 ans. » Ou bien « Ah, ces textes-là, ou ces annonces-là, ces propos de Jésus, c'était jamais pour juste nourrir notre connaissance. » Mais c'était des sortes de prédictions qui allaient servir de motivation, d'exhortation, de consolation ou de mise en garde. Et de tout temps, on voit que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, en fixant le ciel, en attendant Jésus, ça tenait leur foi. Au travers des épreuves, au travers des difficultés, au travers des incompréhensions, au travers de tout. J'ai d'ailleurs un très bon message sur Jean-Baptiste. Ça, il faut un petit peu étudier Jean-Baptiste. Hallucinant. Le gars, il a prêché un Jésus et Jésus n'est jamais venu comme il l'a prêché. D'ailleurs, il a fini la tête en moins. D'abord en prison, après on lui a enlevé la tête. Il dit, mais attends. Pourtant, c'était un bon gars. Il a fait la volonté de Dieu. Il était pile dans ce que le Seigneur voulait pour lui. N'empêche qu'il en a perdu la tête. Donc des fois, se dire, mais attends, mais comment on peut tenir quand tout s'écroule, quand tout ce que tu as dit, cru, attendu, c'est encore pas là ou différemment et tout ça. Et l'espérance du retour de Jésus sauve ta peau. Non, c'est un petit peu trop simplement dit. Mais c'est ça qui se passe. Quand tu regardes dans le ciel, t'attends ce Jésus, ça garde ta foi vivante. Il se passe un truc. Regardez tout ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu à ce propos-là. L'attente du retour de Jésus nous permet de supporter avec patience les épreuves présentes. Ça, vous pouvez s'imaginer. J'ai maintenant trouvé une petite perle. Si jamais certains prennent des notes, allez à 1 Corinthiens 4:5. Parce que ça pourrait nous aider, surtout quand on a des responsabilités. Regardez ça. L'attente du retour de Jésus nous permet de prendre du recul jusqu'au verdict divin dans les cas embarrassants. Parce que quelquefois, et là on a de la peine, parce qu'on aime bien trancher et dire « Là t'as raison, là t'as tort, ça tu devrais continuer, ça tu devrais arrêter. » N'empêche qu'il y a des cas embarrassants. Ça veut dire, tu ne sais pas trop quoi faire avec. Et là, Paul va donner un encouragement précis qui concerne attends que Jésus revienne, parce que ça sera ce verdict divin qui va dire ce qui était correct, ce qui n'était pas correct. Et ce n'est pas à toi de te mêler de ça. Moi, ça me fait beaucoup de bien quand je lis ça. Surtout aujourd'hui, parce qu'il y a tout un tas de trucs bizarres qui tournent autour de nous. Bon, bref, l'attente du retour de Jésus est une source de réconfort et de consolation. Tu trouves ça dans 1 Thessaloniciens. Ça nous encourage à vivre dans la lumière. Ça nous pousse à la sainteté. Ça nous rappelle d'être sobre et maître de nous-mêmes. Et ça nous exhorte à une vie dans la pureté. En fait, c'est bon pour tout. Non, ça c'est de nouveau trop simplement dit. Mais il se passe vraiment quelque chose au niveau de notre foi quand on n'oublie pas que Jésus va revenir nous chercher. Amen. L'attente parfait notre foi. C'est vrai, la foi est travaillée, la foi est gardée, sauvée, rendue précieuse et tout ça. Je vous raconte un truc. C'est bête, on va en rire certainement. La première fois que j'ai été amoureux, j'ai fait un truc pour la première fois de ma vie. La première fois que j'étais amoureux, j'ai acheté un deuxième aérosol de déodorant. Et je l'ai mis dans mon sac à dos. Et j'ai acheté un troisième spray de déodorant que j'ai mis dans la boîte à gants de ma première voiture. Parce que je voulais toujours être prêt et dégager une bonne odeur quand j'allais voir ma chérie. Toi, t'as fait la même chose. Hein? Je vois que tu rigoles. Hein? Ça rappelle des souvenirs. Hein? Si je pouvais J'aimerais exciter votre foi, votre cœur, votre amour pour Jésus. L'essentiel, ce n'est pas de connaître des informations sur le retour de Jésus. Ce n'est pas de savoir si tel ou tel truc, ça va se passer avant ou après, parce qu'on s'est assez déchiré là-dessus. L'essentiel, et c'est 2 Timothée 4,8 qui dit ça, l'essentiel, c'est d'aimer son avènement. Et l'histoire bête de mon déo, c'est un petit peu comme ça que je fais toute ma vie. Moi, j'aimerais sentir bon quand je vais arriver vers Jésus. Alors, ça ne sera pas du déo, bien entendu, vous m'avez compris. Mais j'aimerais être prêt. Je veux être l'homme du moment. Je veux être celui qui a appelé, viens Nicolas, bon fidèle serviteur, viens te réjouir, viens faire la fête avec moi. Moi, je veux être ce gars-là. Moi, je veux être un homme debout. Je veux être un homme qui est pas honteux quand Jésus appelle les siens. Il y a plusieurs textes qui parlent de honte, qui parlent d'être debout. Alors, soit t'es debout, soit t'es autrement, mais moi, je veux être comme ça. Aimer, c'est ça l'essentiel, aimer son avènement, aimer le fait qu'il revienne. Comment ça va se passer exactement? J'ai plein de films dans ma tête parce que je suis un gars qui s'imagine beaucoup de choses, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Se réjouir par avance de son retour. Moi, presque chaque semaine, je parle de ça avec Jésus. Bon, des fois, j'avoue, c'est parce que j'en ai ras-le-bol, puis j'aimerais que ça vienne vite. Parce qu'il y a deux, trois choses compliquées chez moi. Mais bon, j'aimerais arriver à la conclusion. Et Jésus va revenir. C'est mon espérance, c'est une conviction profonde, tu ne me l'enlèveras pas. Nous sommes, et ça c'est une lapalissade, plus proche aujourd'hui de son retour que hier, forcément, parce qu'on va dans cette direction. Dans le premier point, on a parlé des certitudes, j'ai relevé 3 raisons majeures pour lesquelles Jésus devait revenir. 1, pour accomplir le salut complet, définitif. 2, pour révéler sa véritable nature, le vrai Jésus. 3, pour rétablir son règne. Mon second point, on a vu plusieurs de ces signes à propos desquels Jésus a parlé, et j'ai voulu mettre le doigt sur la réalisation évidente et répétée ces dernières années de certains de ces signes. J'ai donné quelques exemples concrets parce que je pense que ça nous aide. Dans le troisième point, l'attente parfaite notre foi, j'ai insisté sur cette espérance et sur de laquelle manière ça gardait notre foi éveillée. Ça nous maintient en fait en bonne condition spirituelle, et donc c'est sur cet élément de rester dans une bonne condition spirituelle, c'est sur cet élément que j'aimerais finir maintenant avec une histoire qu'on trouve dans Luc 8. Et je vais vous la lire parce que les prochains versets, ça concernera cette histoire, mais d'abord il faut qu'on lise l'histoire. Donc vous pouvez soit écouter, soit suivre dans Luc 18, une histoire qui parle de notre bonne condition spirituelle. Luc 18, 1 à 8, Jésus dit une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et il y a ici cette histoire de prier sans se lasser. Et Jésus termine avec cette question, mais quand je vais revenir, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Autrement dit, est-ce que nous serons debout ou pas? Et là, Jésus met en image cette histoire de scène avec une veuve. Et quand tu regardes dans d'autres versions, le juge va dire, je vais lui rendre justice pour qu'elle arrête de me casser la tête. Est-ce que nous sommes de ces gens qui cassent la tête de Dieu, qui prient sans cesse, qui insistent, qui demandent encore, qui cherchent et qui cherchent et qui cherchent? Et il y a un énorme message à donner, on n'a pas le temps ce matin, sur ceux qui cherchent et qui continuent à chercher Dieu. Ceux-ci, si tu vas à Hébreux, seront récompensés. Mais bon, on n'a pas le temps de tout voir. Vous savez, dans ma vie actuelle, j'essaye de ne pas être complotiste. Quand j'écoute les nouvelles, quand je lis les journaux, j'essaye aussi de ne pas être trop pessimiste. Il y a un véritable feu dans mon cœur pour Jésus. Parfois, je me fais du souci pour beaucoup de choses, parce que je suis un gars qui réfléchit beaucoup. Puis, au fond, Je sais que je ne suis pas seul et ça se résout dans la prière. Mais ce que j'ai partagé ce matin ne me fera pas m'enterrer dans un bunker avec des vivres en réserve pour juste attendre que ça passe. Je ne suis pas de ce genre-là. D'ailleurs, je viens de changer de boulot. J'ai bien envie d'améliorer encore certaines choses. J'ai bien envie de réussir un petit peu mieux. Enfin voilà, j'ai encore des envies pour ma vie. J'ai bien l'intention de visiter encore plusieurs pays à moto et puis avec ma famille. Je prends mes responsabilités au sérieux. Je ne m'arrête pas juste de vivre parce que ce qu'a dit Jésus, ça va être effroyable. Non, 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 je ne suis pas de ce genre-là. J'essaye en fait de vivre cette citation qu'on attribue à Martin Luther. Peut-être que vous avez lu ça quelque part. Martin Luther aurait dit « Si la fin du monde était pour demain, aujourd'hui je planterais un pommier ». Alors certains pensent que c'est un mythe parce que Martin Luther avait autre chose à dire que de parler de botanique, mais bon, ça c'est un autre sujet. Est-ce qu'il l'a dit ou c'est une légende? Moi j'ai pas besoin de le savoir. L'élan de mon cœur est le même que celui qui a poussé Luther en avant. C'est le même esprit qui travaille en moi, qui a travaillé chez les réformateurs, qui travaille chez vous, et ça me pousse à vivre la vie. Pas à être pessimiste, à être sérieux, mais à m'engager, à faire mon maximum. Je veux une vraie vie pleine, je fais mes responsabilités, j'ai des désirs, j'ai des rêves, je ne pense pas que je mourrai après-demain, mais tout ça, je le fais en regardant le ciel. Parce que j'attends ce Jésus, j'attends mon Jésus qui va revenir. J'aimerais faire tout avec les yeux fixés vers le ciel. Je termine avec ces mots de Jésus que je mets en parallèle avec cette citation de parabole qu'on a lue juste pour terminer. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Et quand je lis la Bible, je lis ça avec Matthieu 24, avec la parabole de Luc 18. Ça coïncide, ça donne beaucoup de précision. Et j'aimerais juste qu'on termine en priant ensemble. Seigneur, tu lis dans nos cœurs. Rien ne t'est caché. Tu sais exactement de quoi sont faites nos journées. Ce que nous savons fermement. Là où nous hésitons, là où quelquefois nous sommes révoltés sur certains domaines. Seigneur, tu lis en nous, comme dans un livre ouvert. Seigneur, j'appelle l'action de ton esprit pour que, avec ta parole, tu trouves la manière de nous encourager ce matin. Encourage-nous, Seigneur, à regarder ce ciel dans lequel tu es parti et à croire à ces paroles. Les anges ont dit de la même manière, il va revenir. Seigneur, tu vas revenir avec les tiens, avec puissance, selon ces textes qui disent que tu reviendras sur une nuée à la rencontre des tiens dans les airs. Bref, tout ça, Seigneur, j'y crois de tout mon cœur. Et Seigneur, je crois que ta parole est la vérité. Seigneur, je veux faire ma vie en étant un homme sérieux et appliqué qui regarde le ciel. Et Seigneur, j'aimerais que tu trouves une manière de bénir et d'encourager mes frères, mes sœurs qui sont là au nom de Jésus. Promène-toi dans les rangs, Seigneur. Viens réveiller ce qui doit être réveillé. Je prie, Seigneur, que ta puissance opère maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous savons que nous n'avons pas de mérite, Seigneur. Nous voulons être à notre juste place devant toi. Fais-nous tenir debout. Nous voulons être de ceux, Seigneur, qui portent ta foi dans leur cœur au moment de ton retour. Et Seigneur, au travers de ce qui nous lamine, de ce qui a considérablement transformé nos vies, sauve-nous. Seigneur, garde précieusement ce dépôt. Amène-nous plus loin. Sauve ta vie en nous. J'aimerais terminer, Seigneur, en priant pour les personnes qui se sentent un peu chancelantes ou hésitantes. Je prie, Seigneur, que tu te révèles comme un Dieu ferme, comme un appui puissant sur lequel on peut s'appuyer sans que tu ne bouges. Voilà ce que je te demande au nom de Jésus pour eux. Alléluia. Amen.